こうしたスタートの
Tout d'abord, merci de m'avoir invité à parler dans cette assemblée. Et je vais inaugurer les différentes interventions. Celle que j'ai proposée, et donc je vous remercie d'avoir accepté, c'est une éthique judéo-chrétienne. Point d'interrogation. Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est possible ? Et sous quelles conditions ? À la toute fin, alors, il faut que je mette le chronomètre en marche. À la toute fin de mon intervention, je vais essayer de laisser 2-3 minutes sur les questions que pose l'islam au projet de nouvelle conjonction des éthiques juives et chrétiennes, c'est-à-dire le troisième monothéisme qui est dominant actuellement, en tout cas, qui se présente comme un monothéisme dominant, et il faut en dire quelques mots. Le judaïsme et le christianisme partagent le concept d'obligation éthique, une éthique qui n'est en aucun cas le résultat de choix libres, politiques ou philosophiques, qui peuvent varier selon les lieux et les époques, mais qui est imposée par cette révélation sur laquelle on ne peut revenir, limitant sur cette question la liberté de l'homme. Dans ce sens, les agnostiques et la période des Lumières ont parlé de morale judéo-chrétienne, dans un esprit clairement malveillant, ignorant volontairement que l'éthique n'est pas le résultat d'un compromis politique ou philosophique, mais selon la mise au clair d'Emmanuel Levinas, la dimension première, au-delà de l'histoire de la philosophie et des circonstances politiques, de tout propos philosophique, la Bible sans Athènes. Mais même soumis pareillement à une révélation imposée plus ou moins identique, les voies d'accès choisies par le judaïsme et à sa suite le christianisme ne constituent pas une morale judéo-chrétienne cohérente. Tout au contraire, elles sont nées de stratégies opposées dont je vais parler maintenant, et puisqu'elles ne permettent pas une pression éthique identique ou une pression morale dite judéo-chrétienne, elles manquent sa cible, un monde de justice et de dignité pour tous. Et donc cette éthique nous manque. Le judaïsme est un dispositif de réparation du monde et envisage clairement de réussir ici-bas. Le christianisme pense que c'est impossible, voué à l'échec, comme ça l'a été dès la chute définitive de Jérusalem, que la vraie vie est ailleurs, au ciel, et qu'il faut préparer l'homme à une manière d'opérer qui permette à l'homme le pardon, l'effacement des offenses. Ainsi, si la réparation, la remise en ordre de marche d'une collectivité ici-bas, est au cœur du travail du judaïsme, c'est la préparation au pardon pour tout à chacun qui occupe cette place dans le christianisme. Les versets de la Bible hébraïque développant cette logique, donc l'Ancien Testament, sont légion. Un seul verset suffira ici. Dans Genèse 4, 25, à la suite du premier meurtre d'Abel par Caïn, on n'y fait pas très attention, c'est-à-dire on s'arrête là, on ne lit pas plus loin. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Examiner la juste application des 613 commandements bibliques, c'est toute la raison d'être des Talmuds. Reprendre ce corpus biblique et revoir là où leur mise en œuvre a failli et a empêché jusqu'alors la venue de ce monde de justice et de dignité qui est l'objectif de la révélation. Et donc, le premier objectif, c'est de réparer, avant même de pardonner. Ainsi, dans le traité des nuisances du Talmud de Babylone, est évaluée la nature de toute transgression, ce qui a été mal fait, non pas mal, mais mal fait, un ratage dû à la sottise ou à l'inconscience, sans que la culpabilité ne joue aucun rôle dans sa réparation. Et ce qu'il en coûte, le mal est ainsi une erreur qui peut être compensée, et non pas un mal absolu qu'il faut éradiquer en chacun de nous, comme le propose et le souhaite le christianisme. Par exemple, l'identification du dysfonctionnement tel que classé dans le livre de l'Exode est repris et développé dans le traité des nuisances du Talmud de Babylone. Je ne le développerai pas, mais je signale que le Talmud, les Talmuds, repèrent quatre types de nuisances, le bœuf, le feu, le puits et la dent. Pour s'y retrouver, le bœuf suit sa trace et il provoque des dégâts. Le feu uniformise le réel et ne tient compte d'aucune autre réalité que lui-même. Le puits est un trou dans la réalité que quelqu'un normalement devrait surveiller. Et la dent ajoute à tout ça le plaisir de faire du mal. Donc, la première des questions que pose le Talmud, c'est lorsqu'on a affaire à une transgression, à laquelle s'apparente-t-elle ? Et si le judaïsme est une législation révélée selon la définition donnée par Hegel et réinterrogée par Derrida, on sait que le christianisme s'est voulu dans les premiers textes, les évangiles et les textes de Paul, les actes des apôtres et ses épîtres, le contre-pied de cette manière d'opérer, qui, selon eux, a échoué, échec qu'il faut prendre en compte. Là encore, les exemples textuels ne manquent pas, et ils sont connus. Contentons-nous d'en rappeler quelques-uns, donc citation dans Matthieu. « Et les pharisiens et les scribes, donc les juifs de l'époque, lui demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Ils ne sont pas lavés les mains. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc le cœur est au centre, comme le pardon, et non pas la réparation. Et dans les premiers siècles, alors que les Juifs cherchent à reconstruire leur présence ici-bas, les chrétiens viseront le ciel. Dans le droit, les oppositions sont flagrantes. Si le droit hébraïque est un droit de la preuve, c'est-à-dire est-ce que ça a eu lieu et celui qui accuse doit apporter une preuve, celui du christianisme est celui de l'aveu. Pendant très longtemps, c'était le travail qui était dévolu au procès et au procès d'assises. Il fallait que le coupable avoue. Et si dans le judaïsme, ce qui est voulu, c'est l'identification de la faute et sa réparation, ça peut paraître absurde, mais toutes les fautes ne se valent pas et elles sont identifiables à la dent, au puits, au feu ou au bœuf. Dans le christianisme, ce qui est visé et espéré, c'est l'annulation de la faute, la purification de celui ou celle qui a commis la faute. Matthieu, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je vous le dis toujours, Matthieu, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ces deux stratégies ont connu un parcours différent. Si les Juifs se sont trouvés hors de l'histoire du monde et n'ont pu mettre en œuvre leur manière d'opérer, ils ne gouverneront nulle part. Cette manière d'opérer sera appliquée aux États-Unis, mais ça nous prendrait dans le droit américain, mais ça nous prendrait trop de temps. Les chrétiens qui ont eu, eux, à gouverner aux côtés ou contre ou au-dessus des pouvoirs séculiers dans la vieille Europe ont imposé leur mode opératoire jusqu'à la Révolution française et avec la sécularisation au-delà jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre mondiale n'a pas été la deuxième, on le sait, une guerre comme une autre, en particulier parce qu'elle a vu l'installation dominante de deux autres types d'éthique, de morale matérialiste, celle des communistes, je cite Lénine. En dehors du processus historique concret, la morale en général n'existe tout simplement pas. Chaque type de morale est conditionné socialement et historiquement, et l'objectif dicte les moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Ça, donc ça, c'est le but prime sur les moyens. On connaît, ça c'est le communisme. Et loin du christianisme, donc, et dans second temps, la victoire d'un peuple païen, donc les nazis, les Allemands, abandonnant même l'idée d'humanisme. Et enfin, donc, est venu couronner cet ensemble d'égarements éthiques ou de difficultés à maîtriser l'éthique, la Shoah, dans le préambule de la déclaration issue du Concile œcuménique Vatican II sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes et les autres religions, qui a été promulguée en 1965 par le pape Paul VI, il est dit, l'Holocauste avait eu lieu dans des pays de vieilles traditions et de civilisations chrétiennes, se pouvait-il qu'il y ait quelques liens entre l'extermination des Juifs européens et l'attitude des chrétiens contre les Juifs au cours des siècles? Ainsi, on s'est trouvé en fin de parcours pratiquement avec la Shoah, et une difficulté à énoncer soit une éthique chrétienne efficace, soit un dispositif de réparation juif qui puisse fonctionner. Et dans la vieille Europe, le primat général affirmé sur la liberté sur l'obligation, nous maintient dans une vaste zone de désarroi éthique qui nous oblige à chercher une solution. Et c'est ce désarroi éthique de tous côtés, actuel donc, qui nous presse à proposer une alliance, d'une certaine manière nouvelle, voulue, féconde et efficace, celle conjoignant les stratégies éthiques du judaïsme et celle du christianisme. Et j'ai trouvé une phrase attribuée à Louis Althusser, j'ai trouvé, disant mieux que moi, ce qu'il fallait comprendre. Il dit « Le christianisme est un navire amiral, le judaïsme un laboratoire pour affiner les prototypes. » Et ce navire amiral, le christianisme, permet qu'il y ait de l'universel, et le judaïsme, qui est un laboratoire, permet d'alimenter par des innovations éthiques ou des innovations religieuses ce dispositif donc chrétien universel. Alors, vu ce que j'ai dit, j'ai encore quelques minutes, à peine, mais je les ai, pour parler de l'islam. Les deux dispositifs, réparation ou pardon, auraient besoin donc de se conjoindre à nouveau et de permettre de s'appuyer l'un sur l'autre. Qu'est-on en droit d'attendre de l'islam ? C'est assez compliqué parce que l'islam n'est pas compatible avec l'un et l'autre. Il n'existe pas de bien et de mal dans l'absolu en islam. Seul est examiné ce qui est licite ou illicite. Et la fin justifie le plus souvent les moyens. Donc on est en dehors du champ judéo-chrétien. Ce qui est visé, c'est ni la réparation, comme dans le judaïsme, ni le pardon, comme le christianisme, mais puisque la création est parfaite, le Coran revient de très nombreuses fois sur cette question, et immobile, ce qui est visé, c'est le rééquilibrage. Lorsqu'une transgression et un mal a été fait, il faut rééquilibrer. Alors évidemment, ça porte un nom moins élégant la plupart du temps, qu'on appelle la vengeance. Lorsque dans une collectivité, un cousin a été tué, il faut tuer un cousin dans l'autre collectivité responsable. C'est ce qu'on appelle rééquilibrer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vision progressiste. Ce qui compte, c'est les choses comme elles sont. Et il y a deux niveaux d'évaluation des actes humains. Celui qui est contrôlé par les hommes, qui peut être jugé par tous, et donc par les imams. Il y a la quasi-totalité ou la très grande majorité des fautes et du mal, de ce qui est illicite ou licite, est jugé par des hommes, par des imams, et quelque chose qui est du seul ressort au-dessus, on va dire, de Dieu. Et il y a une sourate que je vais vous lire, qui dit, donc la sourate 18, donc 68-71, une discussion entre Moïse, beaucoup de personnages bibliques, chrétiens et juifs, figurent dans le Coran, et là c'est une discussion entre Moïse et quelqu'un qui est avec lui, un musulman. Comment endurerais-tu sur des choses si tu n'embrasses pas par ta connaissance? Et Moïse dit, si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Donc Moïse le rassure, parle, vas-y, dis-moi. « Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'aurais pas fait mention. » Et donc, ils partirent et ils commencèrent à débattre. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme qui débattait avec Moïse fit une brèche dans le bateau, un trou. Et bien sûr, le bateau allait couler. Et Moïse lui dit, « Est-ce pour noyer ses occupants que tu as ébréché ce bateau? Si tu as fait ça, c'est une chose monstrueuse. » Mais l'autre lui répond, ça ne dépend pas de toi, c'est pas du domaine de l'humain. Il y avait peut-être dans ce bateau quelqu'un qui s'apprêtait à faire un massacre inouï, un Hitler ou un fanatique ou un assassin qui aurait coulé encore 10 bateaux de plus, ça seul le Dieu le sait. Et donc il y a un plafond au-delà duquel la question du bien et du mal, du licite et de l'illicite, n'appartient pas à l'homme. Il n'y a pas d'égalité de statut de tous les hommes dans l'humanité, mais des catégories. Il n'y a pas une catégorie universelle qu'on appellerait l'humanité chez les musulmans. Il y a les croyants, les 10 000, les insoumis. Il n'y a pas de projet, je l'ai dit, d'améliorer l'homme ou le monde. La création est parfaite et Dieu est inconnaissable. Ni alliance, ni dialogue, ni réel recours hors du Coran. Donc, difficulté énorme d'insérer dans l'éthique judéo-chrétienne un volet musulman. Et je termine là, parce que je crois que, voilà, ça fait 15 minutes. Il faut aussi réfléchir à la place du bouddhisme, qui est une religion dominante, qui apporte un certain nombre d'éléments nécessaires au comportement éthique, mais ce sera pour une autre fois, un autre jour et ailleurs.